comment tu te sens d'être ici? Je pense que c'est ton premier podcast.
Mon premier podcast ici. Effectivement, j'avais donné une entrevue, mais pas un podcast. Hein? Je suis vraiment excitée. Premier podcast avec toi.
Tu as donné une entrevue ici à Via 95?
Oui, à l'époque de la pandémie, il y avait quelqu'un qui m'avait référé pour la Maison Blanche parce que j'avais donné des cosmétiques gratuitement.
Wow!
Pour les gens qui œuvraient dans le domaine de la santé. Fait qu'il m'avait... dans le fond, parler de moi à la radio, puis on m'avait demandé une petite entrevue.
Oh, que,
c'était ma première expérience avec vous autres.
Cool! Mais là, on va commencer, en fait, par... moi, je te connais un petit peu à travers les réseaux sociaux, à travers, mm-hmm. justement, un petit peu la Maison Blanche, tout, mm-hmm. ce que tu fais. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu te présentes par toi-même. Un petit peu m'expliquer les rôles que tu portes dans la vie, les chapeaux, puis ce que tu fais dans la vie, d'où est-ce que tu viens.
Mm-hmm.
Fait que m'expliquer brièvement tout ça.
Avec plaisir. Mon nom, c'est Sariane Fortin. Je suis esthéticienne et directrice nationale pour les cosmétiques Mary Kay. Je suis aussi fièrement propriétaire du salon de beauté La Maison Blanche et je suis maman de deux petits jumeaux.
Les adorables jumeaux que j'ai...
Oui, que tu as eu la chance de voir.
Oui, oui.
C'est Grace et James, puis je suis mariée à mon cowboy, là, Félix Niffeler, mon forever one.
C'est vraiment une histoire d'amour.
Ouais. Dans le monde du country, là, on s'entend, là, ça, on l'incarne à tous les jours.
Vraiment.
Puis à la base, j'étais nutritionniste équine, mais je me suis dirigée dans le domaine de la beauté. La vie m'a amenée là, on pourra en reparler plus tard, mais c'est ça. Ouais.
Justement, aujourd'hui, je t'invite parce que quand on s'est rencontrés, c'était vraiment par rapport à... C'était quoi, donc? Tu m'avais fait des ongles, cette journée-là?
Oui, des ongles pour le mariage d'une de tes copines.
Oui.
Puis tes photos, d'ailleurs, de ce mariage-là étaient magnifiques pour les hommes partagés sur la page.
C'est vrai.
Parce que c'était juste c'est wow!
Je m'en souviens. En plus, cette thématique country, ça fait que ça fit avec la maison.
Ah oui, bien exactement, exactement.
Mais c'est ça, tu sais, là, en fait, on a parlé pendant cette période-là, puis c'était la première fois que je te rencontrais.
Mm-hmm.
Puis j'ai eu accès à la Sariane, tu sais, que... je vois pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais tu as un côté plus vulnérable, plus, mm-hmm. qu'entrepreneur.
Ouais.
Tu as vraiment un beau parcours de vie que j'ai été touchée quand que j'ai appris à te connaître à travers ce petit laps de temps-là. Puis je me suis dit, hey, qui j'inviterais au podcast? Mm-hmm. Puis j'ai pensé à toi. Mais j'ai envie de te retourner la balle aussi puis de te dire un peu, te demander en fait pourquoi tu as accepté mon invitation à venir au Handicaché podcast. Puis en fait, qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant aujourd'hui qui te rend différente, changée? Puis, tu sais, on va revenir aussi de, un peu à la base là, de comment tu as, en fait, entré dans Mary Kay, mm-hmm, puis tout, mm-hmm. ton processus de tout ça. Fait que là, c'est beaucoup de questions en même temps.
Ah oui! Mais je vais essayer de me rappeler du début, en fait. Bien, premièrement, pourquoi j'ai accepté de venir à ton émission? C'est simple, je suis tombée en amour avec toi, Juliane. Tout le monde qui te rencontre, je suis sûre que je ne suis pas la première. Je t'ai trouvée tellement, justement... vulnérable, mais en même temps tellement forte. Puis moi, je suis entourée de femmes dans mon métier. Fait que c'est sûr que j'aime m'entourer de femmes positives, qui, tu sais, no excuse, puis qui avancent.
Ouais, ouais.
Puis tu sais, justement, quand tu as publié récemment ta photo de graduation de ton programme, je me suis dit, oh, that's my girl. Fait que c'était sûr que j'allais accepter de venir à ton émission. Tout ce que tu vas faire pour moi me motive et me porte confiance. Fait que c'est pour ça que je suis là.
Mais là,
c'est vrai. Puis il faut le mettre de l'avant, des femmes comme toi qui font pas juste encourager les autres à se dépasser, mais qui se mettent de l'avant pour encourager d'autres gens à se mettre de l'avant. Puis moi, je trouve ça wow. Fait que c'est pour ça que je suis là.
C'est vraiment drôle que tu me dises tout ça parce que moi, c'est exactement ce que j'ai pensé de toi. Tu es une femme forte, vulnérable, qui va de l'avant, qui fonce. Puis c'est
bon. Merci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la partie vulnérable, par exemple. Je t'avertis.
Non.
En fait, je me suis ouvert à toi sans vraiment réfléchir parce que j'ai eu confiance en toi. Puis souvent, dans le domaine de la beauté, de l'esthétique, on est proche de notre technicienne d'ongles, de notre esthéticienne, de notre fille de cils, de notre coiffeuse. On vient à force des rendez-vous à... connaître un peu sa vie, puis lui raconter un peu la nôtre. Puis toi, même au premier rendez-vous, on était déjà dans les confidences.
Oui.
Donc, effectivement, je t'ai parlé un petit peu de mon parcours. Puis en fait, pour l'expliquer brièvement, qu'est-ce qui m'a amenée dans Mary Kay? Parce que je pense que c'était ça aussi une partie de ta question.
Oui, c'est ça. Dans le fond, je veux savoir vraiment spécifiquement comment que tu as réussi à devenir directrice de Mary Kay, ton parcours, mm-hmm. là-dedans. Je veux savoir précisément dans Mary Kay, c'est quoi qui te satisfait de ce travail-là. Puis de la Maison Blanche aussi, de, mm-hmm. l'esthétique, tout ça. Puis c'est quoi les défis, puis comment tu parviens à les surmonter, puis qu'est-ce qui te fait du bien là-dedans? T'sais?
Clairement. En fait, c'est un peu une triste histoire, le pourquoi j'ai commencé Mary Kay, c'est que j'étais dans une très mauvaise posture monétaire. À 27 ans, J'étais endettée énormément juste sur une carte de crédit qui était loadée over, au point où tu peux sûrement pas t'en douter. Et dans le fond, pourquoi je m'étais endettée autant, c'est que mes parents, c'était des entrepreneurs. Ils m'ont encouragée à réaliser mes rêves. J'ai fait de la compétition d'équitation toute ma jeunesse. J'ai une très, très belle jeunesse, par exemple. Puis ça m'a énormément aidée, je pense, à affronter ce qui m'attendait après en vieillissant. Puis, dans les compétitions d'équitation, je m'amenais... j'étais toujours avec des personnes qui étaient... fille ou fils de politiciens ou de médecins ou de dentistes ou d'avocats, bref, qui avaient un certain budget, que mes parents, même s'ils avaient quand même une bonne entreprise, ça s'appelait le Manoir des Pins, c'était une auberge avec 31 chalets au bord de l'eau. Fait que c'était une belle auberge, une belle entreprise.
Oh mon Dieu, je savais pas ça.
Ouais, mais mon père redonnait beaucoup à son entreprise, fait qu'on n'avait pas un niveau de vie nécessairement ultra au-dessus de la norme, comme les personnes que je côtoyais dans ce domaine-là. Et arrivé à un certain âge, j'ai voulu me débrouiller. Fait que j'ai dit à mes parents, je veux plus que vous payiez mes affaires, je vais me débrouiller. Puis j'essayais de suivre mes amis. Fait que compétitionner en Floride, compétitionner aux États-Unis, en Ontario, au Canada, j'ai même été un petit peu en Europe. Et j'ai loadé mes cartes de crédit parce que, à moins d'être calibre olympique, s'entend. Non, mais moins d'être calibre pro, exactement. On n'a pas tant de sponsors, on n'a pas tant d'argent qu'on gagne. Donc, je me suis endettée comme ça, pour ma passion. Puis, je le regrettais pas, mais j'étais arrivée à une étape où j'étais comme, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais je travaillais déjà à temps plein pour un travail que j'adorais. Puis, je voulais pas nécessairement moins m'entraîner avec mon cheval. Donc, je me disais, comment je peux faire pour faire plus d'argent, mais pas avoir une job avec des heures, avec un patron qui vont être restrictifs, parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps. Puis en fait, c'est une amie commune dans le domaine équestre qui a partagé sur les réseaux sociaux. Elle avait 19 ans, puis elle venait de se mériter sa première voiture de carrière payée par Mary Kay. Puis dans le fond, elle verbalisait que ça avait changé sa vie. Puis moi, je la connaissais pas personnellement, cette personne-là, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas compris à 27 ans? Qu'elle, elle a compris à 19 ans? Fait que je me suis moi-même introduite dans cette compagnie-là. Puis je me suis dit, j'ai pas de plafond salarial, j'ai pas de patron, j'ai pas d'heure. Fait que je m'en donnais. Puis je me suis mis à faire des classes beauté avec toutes mes amies dans le domaine des chevaux, toutes mes amies dans le domaine de la nutrition, toutes mes amies dans... Fait que de fil en aiguille, j'ai fait ma clientèle comme ça, par au début énergie du désespoir, mais après, rapidement, par juste par énergie et passion, tout court, exactement. Souvent, les gens attendent d'être passionnés avant de poser des actions, mais c'est souvent les actions qui vont amener des résultats, qui vont t'amener la passion.
Ouais.
Puis, de fil en aiguille, j'ai passé d'habiter dans une maison mobile avec mon conjoint à m'acheter notre maison de rêve à Bécancour que tu as vue, avec notre mini ranch en arrière.
Oui.
Puis, tu sais, fait que j'ai changé ma propre bulle.
Mm.
Fait que c'est sûr qu'après, j'ai eu le goût de changer la bulle de tout le monde qui avait envie de la changer autour de moi. Fait que c'est comme ça que je suis devenue directrice nationale pour les cosmétiques marqués. Après plusieurs belles couronnes, après plusieurs beaux succès, mais aussi plusieurs beaux succès d'équipe, hein, pas juste les miens.
Ouais.
Et on est juste 8 directrices nationales au Canada.
Oh mon Dieu, je savais pas ça.
Il y en a pas beaucoup, 8 seulement au Canada. Donc, je suis très fière.
C'était tellement un exemple de persévérance puis de résilience là-dedans. Là, quand que j'entends ton encore plus de toi, là, c'est juste ça qui me vient en tête, là, vraiment. Là.
Le domaine de la beauté, en fait, tout le monde pense que j'étais esthéticienne avant de rentrer dans Marquis, mais c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Moi, quand je suis rentrée dans ce domaine, dans cette industrie-là, j'ai tellement aimé ça. Puis c'était une entreprise où j'avais pas besoin justement de mettre comme un 40 heures pour avoir un certain succès.
Ouais.
Fait que le temps qui me restait, je suis retournée sur les bancs d'école sans, tu sais, en continuant de travailler pour marquer, en continuant de m'entraîner avec mon cheval. Puis j'ai été chercher mon diplôme en esthétique. Fait que j'ai ouvert mon premier salon d'esthétique à Saint-Hyacinthe.
Wow.
Ensuite, je l'ai vendu à mes deux employés qui ont fait une super de belle job avec. Puis ensuite, il y a eu la pandémie. Puis j'ai ouvert mon deuxième salon d'esthétique, la Maison Blanche, que tu connais.
Oui, que j'ai été voir, puis qui est magnifique d'ailleurs.
Merci.
Puis dans le fond, à travers tout ça, tu sais, je sais pas en fait c'est quoi être entrepreneur comme toi, puis le métier tout court d'esthétique et de marquer, mais j'imagine qu'il doit y avoir des défis aussi que tu rencontres. Puis comment que tu fais pour les traverser ces défis-là en tant qu'entrepreneur?
C'est sûr que le premier défi d'une entrepreneur, je dirais que c'est quel genre de patron on va être avec nous-mêmes.
Mmh.
Est-ce qu'on va être trop dur ou à la limite, l'inverse, est-ce qu'on va être trop lousse?
Mmh.
Donc, c'est ça l'adaptation du début. C'est sais, est-ce que la raison de pourquoi je fais ça est assez forte pour que je sois un assez dur patron pour me sortir de mon divan? Mais est-ce que je suis capable aussi de réaliser que je continuerai pas longtemps si je suis trop dure avec moi-même? Fait que le premier défi, c'est de trouver une balance là-dedans, et c'est normal d'avoir besoin de temps pour trouver une balance là-dedans.
Ouais.
Au début, on se brûle un peu. Après ça, on dirait que oups, on en fait pas assez. Après ça, on trouve une balance.
Ouais.
Ensuite, c'est le service client. On s'entend que toutes les clientes sont différentes.
Oui.
Toutes les clientes ont des besoins différents.
Oui.
Elles ont leur propre connaissance aussi, leur propre bagage avec d'autres conseillères beauté, d'autres esthéticiennes, d'autres. Donc, c'est de s'ajuster un peu à travers tout ça, de jamais invalider le travail des autres qui ont pensé avant nous.
Oui.
Mais peut-être d'apporter une touche différente. J'ai terminé mes études en cosmétologie en 2021 aussi pour être capable d'essayer d'amener des connaissances supplémentaires à mes clientes.
D'innover.
Oui, parce que des fois, avec Internet, on est perdu. Souvent, les gens se fient à toutes sortes de trucs sur Internet, mais le trois quarts des articles ne sont pas scientifiques. Donc, il faut faire vraiment attention à nos ressources.
Il y a de la désinformation.
Désinformation, exactement. Oui, ouais, malheureusement.
Oh, wow. Mais je pense que un peu aussi ta clientèle, tu l'as fait avec ta couleur aussi.
Je pense
faut
que
pas
oui.
que tu oublies ça. Là.
Je pense que oui.
Vraiment.
Des références, beaucoup de bouche à oreille.
Ouais.
Des petite publicité qu'on a faite aussi, surtout au début. On a recommencé maintenant que je suis revenue de mon congé de maternité,
oui.
officiellement. Donc, j'ai eu des petites plages horaires qui s'est libérées. On a refait des publicités, mais tu sais, ça faisait depuis 2020 qu'on n'avait pas fait de publicité. Fait que j'en suis quand même fière. J'ai même pas... Faut que je mette mon affiche, t'imagines? J'ai même pas mon affiche sur le bord de la rue.
Mais non, c'est
encore.
Ça.
Encore! Mais tu sais, je me dis, ben si le salon roule puis ouais, que j'ai pas d'affiche, bien. Ça va bien.
C'est
mais c'est quand même Marquis qui me fait vivre. C'est ça, ma première passion. Le salon, c'est un must, c'est un plus, c'est un de mes rêves que je voulais réaliser de plus, mais c'est vraiment marqué mon premier travail.
C'est beau de voir à quel point tu peux jumeler deux choses complètement différentes, c'est le monde des chevaux, de l'équitation, mm-hmm. puis le monde de la beauté, de l'esthétique, mm-hmm. puis je trouve ça beau, tu sais, que tu montres qu'on peut être une belle femme, qu'on peut être fifi, on peut être, tu sais, se mettre belle, puis autant aimer les chevaux.
Même. Être dans la boîte, là.
Ouais, ah, ouais. Dans la boîte, ben
dans
c'est ça.
Chenier, tout ce que
c'est
tu veux.
Ça.
Exact, je suis tellement d'accord. J'ai vu une photo passer sur les réseaux sociaux l'autre jour d'une fille qui avait un pied dans l'étrier de la selle avec une botte de cow-boy, puis l'autre pied par terre en talon haut.
Oh.
J'ai trouvé que c'était tellement représentatif
de
mes deux personnalités.
Ouais. De toi. Ah, ça aurait pu être toi.
Ben oui, puis il y a beaucoup de personnes comme ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur ni d'œuvrer dans le domaine de la beauté, ou de recevoir des services dans le domaine de la beauté.
Ouais.
Si on travaille dans un milieu d'hommes, ou si on travaille dans un milieu atypique, avec des conditions spéciales, avec des bottes de rubber, ou whatever, il n'y a tellement pas de problème. Il faut s'assumer dans sa féminité, peu importe, et son orientation, et aussi d'où on vient, dans le travail, ou dans les loisirs, ou dans le background. Moi, ma mère prenait pas beaucoup soin de sa peau. Fait que c'est pas parce qu'on m'a légué ça de mère en fille. Moi, je viens d'une famille de barbiers, là, tu sais. Fait que
faut
on
juste
prend soin des cheveux
des
pour
hommes.
Exactement. Exactement. Faut juste foncer, puis suivre. Si on a quelque chose en nous qui nous pousse à, puis des fois, ça peut être pour des raisons qu'on a l'impression qu'on pourrait avoir honte, comme dans mon cas, c'était le problème monétaire.
Mm.
Mais au final, si c'est un moteur pour t'amener plus loin, il n'y a jamais de honte à avoir pour peu importe la raison pourquoi tu as décidé de foncer.
Oui, puis je trouve que c'est une belle leçon que tu amènes aujourd'hui, que tu amènes aux autres aussi. T'sais, c'est pas parce que tu as un problème financier ou peu importe que ça va pas bien dans ta vie. T'sais, ne serait-ce que n'importe quel changement va être un petit peu inconfortable au début, mais après ça, c'est là que tu vois les résultats en posant des actions, comme tu as dit tantôt, qu'il va y avoir des belles choses qui s'ouvrent à toi, puis c'est jamais perdu, tu sais, tant que tu n'essayes pas, dans le fond. Là.
Exact. Je pense que tu sais à quel point l'adaptation est importante dans la vie.
Ouais.
Puis je pense que, dans le fond, ce qui nous arrive, ça, c'est la vie qui décide. Mm-hmm. On peut juste contrôler notre réaction à ce qui nous arrive.
Ouais.
Fait que ça change tout, en fait, puis on peut toujours se sortir de toute situation en passant par notre mindset. Puis c'est pas évident des fois au début, puis ça se peut qu'on ait besoin d'aide pour ça. Puis ça aussi, c'est un tout autre sujet de podcast.
Oui, mais c'est ça.
Vraiment, il ne faut pas avoir peur à demander de l'aide si on a besoin. Si on n'arrive pas à déclencher, si je peux dire, là, pour se dire, OK, là, je vais m'en sortir, ça se peut qu'on ait besoin d'un coup de pouce.
Ben oui,
c'est correct aussi.
C'est ça, c'est correct. Puis merci de cette confiance-là d'avoir amené ce sujet-là au podcast ici puis de le partager à tous. Là.
Mm.
Vraiment, merci.
Ça fait plaisir.
dans le fond, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler maintenant. Je sais qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie qui a un peu bouleversé, je dirais, la relation. Je sais que tu penses où est-ce que je m'en vais.
Mm-hmm.
Je pense qu'il est arrivé une situation quand même assez difficile pour toi avec ton papa.
Mm-hmm.
Puis tu es embarqué dans les sujets que tu as envie de parler aujourd'hui. C'est pas un sujet que tu parles nécessairement à tout le monde, un peu comme que tu m'avais dit, mais Fait que tu m'as dit comme que tu es à l'aise de me parler, puis je trouvais que c'était quand même vraiment, encore une fois, un beau partage de résilience puis de que tu as eu avec moi. Fait que je t'invite un peu à expliquer, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ton père.
C'est clair, tu sais, ça me fait rire parce que j'en parle pas à beaucoup de monde, puis là, je suis comme, on se parle juste nous deux, mais on est avec le public.
Oui, avec le public,
merci,
oui,
public,
c'est ça.
De votre écoute et de votre compréhension. Mais en fait, oui, en 2008, pendant que j'étudiais à l'ITA de l'Apocatière en technique équine, donc à l'autre bout du monde, mon père, pendant qu'il était justement au manoir des Pins, dans son auberge que j'expliquais au début, il a fait un ACV. Puis dans le fond, à cette époque-là, hein, on recule pas si loin, hein, c'est 2008, mais déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de sensibilisation à quoi faire quand quelqu'un fait un ACV.
Oh.
Fait que mon père a montré tous les signes d'ACV. Il déparlait, il y avait un côté de son visage qui s'affaissait, il fonçait dans les cordes de porte, il y avait de la misère à gesticuler correctement. Il a démontré tous les signes, mais personne n'a compris, personne n'a réalisé qu'est-ce qui se passait. Et les employés, puis c'est pas pour les dénigrer du tout, mais ils l'ont même laissé prendre son auto. T'sais, ça donne une idée d'à quel point les gens n'étaient pas conscients. Donc, il a conduit en pleine ACV pendant 20 minutes.
Ouh.
Mais c'est incroyable, ça faisait 35 ans qu'il faisait ce trajet-là de la maison au manoir. Fait qu'il l'a fait, le médecin nous l'a expliqué, il l'a fait automatique. Fait qu'il s'est rendu chez moi, puis arrivé chez ma mère, moi j'étais revenue à la maison quelques heures avant, c'était le week-end, c'était le vendredi soir. Il a foncé dans la clôture. Là, c'est comme s'il arrivait à la maison, il avait tout lâché. Puis on comprenait.
Il a tout donné pour arriver chez toi.
Oui. Puis quand il est arrivé, quelque chose qui marche pas, on est allé le voir, il était dans son auto, puis il était plus là. Il était déjà parti. Il déparlait complètement. C'était plus mon père. Il était tout inquiet, les sourcils froncés. Tu voyais qu'il cherchait dans sa tête. Puis je me disais, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis même nous, on n'a pas allumé. On ne le savait pas. Fait que là, on essayait de l'amener à l'hôpital. Ça a été difficile. Bref, des heures et des heures. On a fini par réussir à l'amener juste le lendemain parce que mon père détestait tout ce qui était hôpitaux, pharmacie, médicaments et tout et tout. Et finalement, ça avait été beaucoup trop long. Ça a pris un total de 16 heures avant qu'on l'amène. Puis il refusait l'ambulance, il refusait tout.
Non.
Donc, il y avait 20 % de son cerveau qui avait manqué d'oxygène, si je peux dire, là. Puis il est resté malheureusement intellectuellement affecté par ça. Donc, aujourd'hui, mon père vit dans un CHSLD depuis ce temps-là. Il ne peut plus vivre à la maison. Fait que moi, j'ai vraiment perdu mon père quand il a foncé dans la clôture, là. Ça a été fini.
My God.
Fait que mais je me compte chanceuse d'un sens parce que vraiment, j'aurais pu. Il est encore lui-même dans le fond. Tu sais, je vais le voir au CHSLD, encore son beau sourire. Il se rappelle mon nom. Il se rappelle le nom de Félix, mon conjoint, le nom de ma mère. On est capable d'avoir des petites conversations courtes.
Okay.
Mais c'est sûr que si on est plusieurs autour d'une table, c'est il va pas parler parce que là, ça va trop vite. Ou des fois, ça y arrive, il va dire quelque chose puis ça se tient pas.
Je me trompe-tu en disant que c'est les séquelles de ça, c'est comme si tu restes pris dans ton corps. T'sais, lui, il est toujours là, mais c'est comme si...
Un peu,
il n'est pas capable de parler comme qu'il voudrait.
Un peu, mais il n'y a pas pleine conscience qui est mêlée. Okay. C'est mieux comme ça.
Okay.
Parce que je plains, c'est pour ça que je dis on est chanceux dans notre malchance. Mon père, c'est comme revenu un petit enfant qui est heureux, puis t'sais, qui est content quand il voit ma mère arriver. D'ailleurs, je veux vraiment remercier ma mère en ondes parce que ma mère va le voir depuis 2008, à chaque jour, tous les jours, du matin au soir.
Wow.
Ma mère me permet de vivre ma vie sans culpabilité que mon père soit seul. Puis j'ai un message à passer pour toutes les personnes qui ont des gens qui vivent en CHSLD. Peu importe leur âge, nous, on l'a vu. C'est quoi? Noël, où ils sont seuls. Le jour de l'an, où ils sont seuls. Leur fête, où ils sont seuls. Puis on pense, oh, ils sont pas tous là, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte. Ils sentent. Fait que des fois, on va à Noël au CHSLD, puis le CHSLD est vide. Fait que je vous invite vraiment à aller voir vos familles parce que c'est tout ce qu'on a de vrai dans la vie, c'est la famille.
Ouais.
On la choisit pas.
Ouais.
Elle est pas toujours parfaite.
Ouais.
Mais nous, on serait pas là si notre nos parents, en tout cas, n'avaient pas été là. Donc, ça, j'invite vraiment tout le monde à avoir une conscience de l'importance de faire sa BA. Puis, au final, vous allez voir que vous allez avoir du plaisir parce que c'est pas nécessairement juste plate ou crève-cœur. Ou, c'est quoi de passer par-dessus, peut-être comment on se sent sur le moment versus de faire sentir cette personne-là vraiment spéciale parce que votre venue, c'est l'événement de la semaine, du mois, ça vaut toute l'ordre.
C'est ça, tu sais, pour une personne qui est en santé puis qui n'est pas en CHSLD, tu sais, on a le travail, on a le chien, on a les enfants, on a l'épicerie, on a tellement de choses à entreprendre. Mm-hmm. Mais pour eux, j'ai une. Les petites langues ont monté quand tu parlais.
Ils ont que nous.
Mais c'est ça, ils ont vraiment que nous. Tu sais, c'est.
Des petits bonheurs.
C'est des petits bonheurs. Puis je pense, tu sais, en CHSLD, voir un proche, tu sais, je me souviens, c'est déjà arrivé. Tu sais, moi, je voyais ça comme un moment que j'allais juste me déposer avec la personne. Tellement. Puis, ça dépend tellement de comment tu veux le voir aussi. Tu sais, tu dis dans ta tête que, oh mon Dieu, c'est tellement plat. Puis c'est, mais il faut changer ses perceptions puis se ramener que cette personne-là, c'est juste ça qu'elle attend comme moment dans sa journée. Puis des fois, je comprends que les gens sont débordés. Puis on est dans une société qui va vite. Ça roule, puis il faut être productif, tu sais. Mais c'est important de... Puis, vraiment, je voulais revenir sur ta mère. Bravo à ta mère. Je la connais pas, mais c'est une femme exceptionnelle. Puis il y en a d'autres, là, des femmes qui font ça pour leur mari que je connais aussi.
Des proches aidants.
Oui, des proches aidants très précieux. Tu sais, puis les souligner aujourd'hui, c'est vraiment... On va avoir un épisode aussi là-dessus sur les proches aidants.
Je vais écouter ça avec plaisir parce qu'ils font toute la différence. Puis à partir de dans le fond, de ce jour-là, j'avais 19 ans, moi, à l'époque. Puis ma vie a basculé parce que, tu sais, à 19 ans... surtout de nos jours, t'as vraiment encore besoin de ton père. Je pense que s'il y en a une qui comprend, c'est toi. Puis, tu sais, je me sentais vraiment sans repère. Puis moi, j'avais la fibre entrepreneuriale de mes parents. Puis c'était surtout mon père, l'entrepreneur. Ma mère, elle a été une excellente adjointe, si je peux dire, à tous ses projets. Elle m'a élevée aussi à la maison, fait qu'elle a été un petit peu plus reculée, mais... j'ai trouvé ça vraiment difficile de perdre mon modèle, en fait. J'entends encore aujourd'hui mes amis dire « Ah, oh, je vais demander à mon père, je vais demander conseil à mon père. » Ça fait toujours de quoi quand tu entends ça, parce que tu dis « Ouais, moi, je suis vraiment... »
Tu peux plus demander conseil, non, c'est comme ça. Que tu l'aurais fait avant. Ouais,
exact. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est que ça brise souvent pas juste notre personne, ça brise une famille. Ma mère n'a plus jamais été la même. Puis je lui en veux pas du tout, mais ma mère a été là pour mon père, mais elle a d'un certain sens, plus vraiment été là pour moi. C'était comme trop.
Ouais.
C'était comme trop, puis tu sais, elle s'est recentrée sur elle, puis sur mon père.
Ouais.
Sur le coup, ça m'a vraiment fait de quoi, parce que j'ai comme perdu mes deux parents d'une chute, puis moi, ma dynamique familiale venait d'éclater complètement.
Ouais.
Mais maintenant, aujourd'hui, je le comprends, puis tu sais, à 19 ans, bien, il a fallu que je vieillisse à 29 ans en 2 minutes.
Ouais.
Mais en même temps, je suis reconnaissante aujourd'hui parce que je suis sûre que j'apprécie un petit peu plus les choses que je l'aurais faites à 20, 21, 22, avoir eu aucune de ces épreuves-là là, qu'on traverse.
C'est ça. C'est dans les pires épreuves que je pense qu'on prend vraiment conscience de sa force. Puis en même temps, je comprends aussi ta mère dans le sens que moi-même, je pense que c'est arrivé que je me suis... complètement recentrée sur certaines choses. Puis j'ai oublié, exemple, mes amis, j'ai oublié beaucoup de sphères dans ma vie que j'ai mis de côté pour survivre. Parce que je pense que toi, tu dois avoir survécu autrement, justement, en devenant plus une adulte rapidement. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se dire quand il y a des épreuves de famille comme ça qui arrivent, c'est difficile. Parce qu'on est tous en train de survivre de manière différente, tu sais.
Tellement.
Mais c'est ça, ça t'a emmené à être la personne que t'es aujourd'hui, peut-être encore plus sensible que si cet événement-là serait jamais arrivé, tu sais.
On réagit tout différemment.
Vraiment.
En fait, là.
Vraiment.
Tu sais, sur le coup, à cet âge-là, je comprenais pas, puis j'étais comme dans la frustration, mais après ça, à un moment donné, ma marraine m'a donné le meilleur conseil. Elle m'a dit, laisse aller, tu t'essaies trop de tout contrôler, tu sais. Puis quand j'ai laissé aller, j'ai été bien plus heureuse, puis drôlement, ben, les gens autour de moi se sont mis à aller un peu mieux, dont ma mère. Fait que, tu sais, des fois, il faut plus se concentrer sur nous puis arrêter pour tout ce qu'on contrôle pas, surtout pas les autres, en fait.
Fait que, qu'est-ce que tu dirais, en fait, qui t'a aidé à traverser cette épreuve-là puis à accepter tout ce qui se passait?
Oui. C'est sûr que j'étais bien entourée par mon conjoint. Fait que Félix m'a énormément aidée à me sortir de ça. Mais moi, ce qui a vraiment été mon remède, ça a été de me dire que mon père voulait que je réussisse. Puis ça a été de m'accrocher à mes passions. Fait que les chevaux, après ça, quand je me suis démarrée justement, ça a été vraiment un moteur d'imaginer. sais, je voyais justement mes amis demander conseil à leurs parents.
Ouais.
Puis je me suis dit, qu'est-ce que mon père m'aurait conseillé? Puis je me posais souvent cette question-là. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit de faire? Qu'est-ce qu'il m'aurait conseillé? Mais je vais le faire. Tu sais, je vais essayer de l'interpréter. Des fois, ça m'arrivait même d'y demander. Puis il me bafouillait quelque chose. Puis là, je comprenais quelque chose. Puis je me disais, c'est ça. C'est sûrement ça qu'il veut dire.
T'essayais de quand même rechercher une réponse.
Ben oui, puis en même temps, tu sais, faut les inclure le plus qu'on peut.
Ouais.
Donc, ouais. Je dirais que c'est mes passions qui m'ont. Parce que j'avais pas mes enfants encore à l'époque.
Oui.
Mon chum, mes passions, mes amis, ma famille ont beaucoup été là aussi. Et j'étais avec une de mes amies aussi à ce moment-là, quand j'ai vécu tout ça. Puis elle m'a énormément soutenue. Fait que je pense qu'il faut s'entourer quand on traverse des choses comme ça. Faut pas avoir peur de demander de l'aide.
Tellement.
Mais faut pas aussi remettre ça comme un poids sur les autres.
Ouais.
Faut vraiment se responsabiliser. Puis. C'est pour ça que je dis que des fois, ça se peut que certaines personnes aient besoin de demander de l'aide à ce moment-là. Puis moi, j'ai probablement que si j'avais pas eu l'enfance extraordinaire que j'ai eue, j'aurais probablement eu besoin. Mais mes parents m'avaient donné tellement un bon bagage.
D'outils.
Oui, que j'ai pu m'en sortir un peu sans m'en rendre compte, pas facilement.
Non.
Mais de fil en aiguille, en me raccrochant à mes passions, puis en me disant « mon père aurait voulu ci, ma mère voudrait ça ». Fait que.
Mais tu vois, c'est un héritage que tu vas toujours avoir de ton père, puis tu vas toujours porter, peu importe. Ce qui arrive, tu sais, fait que c'est beau.
Merci.
C'est vraiment beau.
Merci, merci.
Petite moment de pause pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour Nicolet Yamaska. Saviez-vous que sur leur site Internet, la Fondation met en vente un chandail avec le message « J'aime la vie ». Pourquoi pas un beau chandail confortable de très bonne qualité, 100% polyester, gris foncé et qui reste beau même après le lavage. Tout ça à un prix modique de 40$. Visitez leur site Internet au www.fondationsantevny.ca. Merci à vous pour votre écoute et bonne continuité de l'émission. En parlant de tes enfants, je me suis questionnée, est-ce qu'il a rencontré tes enfants? T'sais, est-ce que...
Oui.
Ouais.
Ça, c'était un de mes buts de vie. Puis d'ailleurs, c'était un de nos grands stress parce que, comme tu sais, on a eu beaucoup de difficultés à devenir parents.
Oui.
Félix et moi.
Puis là, c'est ça, c'est le prochain sujet là, qu'on va parler un petit peu. Fait que je vais te laisser un petit peu développer sur un peu ton parcours de la maternité, le avant. Puis je vais te laisser filer sur ce que tu es prête à partager avec nous. À ce sujet-là.
Sans problème. C'était un de mes objectifs, en fait, quand j'ai été prête à devenir maman, puis ça a pris du temps. Parce que, dans le sens où, moi, avant 30 ans, là, je n'étais pas pressée. J'étais une carriériste, puis, tu sais, là, je venais de me sortir de tous mes problèmes financiers. Tu sais, depuis quelques années, ça roulait très bien. J'avais changé de vie, tu sais, fait que j'étais pas pressée d'aller tout de suite, pas m'hypothéquer, mais... changer ma vie encore.
Oh ouais.
C'est, je venais de la stabiliser.
Tu venais de te trouver une certaine équilibre.
Je voguais depuis quelques années, tu sais, que ça allait vraiment bien.
Ouais.
Je dirais que vraiment en 2018, ma vie a complètement pris un autre tournant. Puis ensuite, ben à 30 ans, je me suis sentie prête à avoir des enfants. Puis aussi, c'est que mon père, faut savoir que mes parents ont 12 ans de différence.
Oh mon Dieu!
Puis que mon père m'a eu à 47 ans. Mais tu regarderais mes parents, puis tu dirais jamais ça parce qu'ils ont vraiment pas l'air de leur âge, les deux. Surtout mon père, c'est exceptionnel. Il a 82 ans. J'ai 35 ans. Puis mon père commence à être poivre et sel.
Oh mon Dieu!
C'est complètement exceptionnel.
Mais voyons donc.
Ouais,
c'est ça que t'es belle de même, dans le fond, c'est génétique.
J'ai des bons gènes! mais Colin, j'ai quelques cheveux blancs. Fait que merci, maman.
Hey.
Mais tout ça pour dire que c'est sûr que mon rêve, mon propre père, moi, j'ai pas connu mon grand-père, ma grand-mère, j'ai pas connu mes grands-parents, sauf ma grand-maman du côté de ma mère. Fait que mon père aurait énormément voulu que son père me connaisse. Malheureusement, il est décédé quand mon père avait seulement 16 ans, fait qu'il n'y avait absolument aucune chance que ça arrive. Et moi, ben, c'était sûr que c'était un de mes objectifs, que mon père voit, ne serait-ce que toucher une fois ses petits-enfants. Fait qu'il est comme venu une espèce d'horloge biologique, tic-tac, tic-tac, puis je me sentais un peu pressée, mais sans vouloir me presser. Mais c'était toujours comme un peu dans mon mindset. Puis... ça fonctionnait pas. Mais j'ai jamais été la plus assidue à checker mes ovulations, ces affaires-là. Puis, tu sais, je suis tombée enceinte, vraiment pas. Moi, je me suis dit, la vie va faire sa magie. Je pensais de même.
Tu voulais pas te mettre la pression.
Exactement. Okay. Puis, drôlement, notre entourage nous en mettait sans le vouloir parce qu'on s'est mariés jeunes, Félix et moi. On s'est mariés à 25 ans. Fait qu'à partir du moment où tu te maries, dans la société où est-ce qu'on est aujourd'hui, tout le monde va te poser la question, à quand les enfants? À quand les enfants? À quand les bébés? À quand les enfants?
Oui, puis si t'en as un, il y a quand le deuxième?
Exactement. Puis, tu sais, je veux pas dénigrer les gens qui disent ça non
c'est
plus.
C'est correct.
C'est très commun. Donc, disons que tout ça mis ensemble, ben, on se disait, OK, faut que ça arrive, mettons. Puis ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, arrivé à comme 33 ans, j'ai commencé à me dire sérieusement, il y a un problème, tu sais.
Ça, c'est à partir de combien d'années?
On a commencé à 30 ans. Okay. 29-30 ans à comme se dire on arrête de se protéger. Puis ensuite, à comme 32-33, mon conjoint puis moi, on s'est dit c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. Okay. Fait que là, j'ai commencé à checker un petit peu plus mes ovulations, mais ça fonctionnait pas plus. Et on voulait aller faire des tests en fertilité, mais chacun a ses mœurs. Moi, je voulais pas payer pour avoir des enfants. C'était pas que j'avais pas l'argent. C'est parce que pour moi, c'était inconcevable. Puis je dénigre aucunement les personnes qui vont payer au privé pour aller au plus vite. Moi, c'était mes mœurs à moi. J'étais comme, déjà que je trouve qu'on perd la magie d'aller en fertilité.
Ouais.
Je vais certainement pas payer pour avoir des enfants. Rendu là, je vais adopter.
Ouais.
Donc, j'ai attendu d'être sur le programme public. Fait que je me suis mise sur une liste, puis ils nous ont rappelé genre 18 mois plus tard.
Oui, c'est ça, c'est long quand
même. C'est long, exactement. Fait que j'étais rendue comme à 33 ans, puis là, on a commencé à faire des tests, finalement. Ni Félix ni moi, on avait de problème. Ouais, ça s'appelle une infertilité inexpliquée. Donc, c'est tout simplement une genre d'incompatibilité biologique.
Entre vous deux, mettons.
Entre nous deux, qui sommes, que tout le monde dit qu'on est le couple fusionnel, là, ben imagine-toi donc qu'on fusionnait pas pour un enfant. Ouais, fait que ça a été très dur d'apprendre ça, puis il n'y a pas, t'sais, y a pas d'explication vraiment à ça.
Puis y avait-tu, mettons, des techniques, des manières en fertilité de que ça fonctionne?
Ben oui, ils nous ont donné des avenues, comme par exemple la prise d'hormones, comme par exemple les inséminations, puis ensuite, si tout ça ne fonctionne pas, tu t'en vas en in vitro. Mais tu sais, tout ça, pour moi, enlevait beaucoup la magie. Mais ben tu sais, oui. À un moment donné, Félix voulait vraiment être papa. Moi, c'était mon rêve de pouvoir y donner ça. Mon père aussi, qui connaissait ses petits-enfants. Fait que, encore là, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'on veut, mais on fonce tête baissée là-dedans. C'est sûr qu'à travers toutes ces années-là, on n'en a pas parlé de ça, ni à nos familles, ni à nos amis. Puis, j'aurais peut-être un deuxième petit message qui me vient là, aux personnes. Des fois, si vous connaissez des couples qui n'ont pas d'enfants, puis qui sont des carriéristes, peut-être pas faire les blagues de « Voyons, qu'est-ce que vous attendez, là? Voyons! Ouais. » Hey, on l'a tout eu, là. On a même eu des amis qui nous ont dit « Voyons, faut-tu que je vous montre comment faire? »
Ouais, c'est
tout,
ça.
Tout, là. Mais prenez pas pour acquis que c'est parce qu'ils se déguisinent pas ou que c'est parce que... non, mais
ouais.
Qu'ils embrayent pas sur le projet ou qu'ils sont trop absorbés par leur carrière. Pour nous, nos carrières ont été une façon de passer au travers parce qu'on faisait que penser à ça. On était très déprimés.
Ben oui.
Fait qu'il faut pas prendre pour acquis. En fait, les gens... On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à la maison.
C'est ça, on ne sait pas. Puis ça se peut vraiment qu'il y ait un problème d'infertilité grave, qu'on n'est pas au courant. Puis on n'est pas obligé de mettre de la pression à un couple qui n'ont pas d'enfants d'en avoir non plus. Tu sais, je pense que chacun ses choix, mais aussi on ne sait pas ce qui se passe derrière. Puis je pense que c'est à chacun, tu sais, de décider de leur vie, de ce qu'ils veulent. Mais je pense que les personnes proches de nous, ils savent clairement comment nous aborder, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui disent des choses comme ça sans vouloir...
Ben, c'est qu'on s'en doute tellement pas.
Ouais.
Moi, j'ai des amis en tête là, que c'est tellement pas pour mal faire,
ouais.
Mais ils s'en doutaient tellement pas qu'on avait de la misère, qu'ils étaient vraiment insistants à dire, ben voyons, là, allez, là, tu sais, comme vous êtes rendus là, lâchez vos carrières, tu sais, lâchez de juste penser à vos carrières. Mais c'était pas du tout ça. Mais il n'y en avait aucune idée, puis on n'en avait pas parlé.
Puis c'était pas nécessaire. Non. Tu sais, des fois, dans ton processus, un peu de deuil, je dirais, d'être enceinte, un peu qu'on parle naturellement, tu sais, puis que ça se fasse un peu comme tu disais, tu sais, de pas payer pour aller en fertilité, tu sais, tout ça, d'assimiler que tu es obligée de faire des démarches pour avoir un enfant, c'est beaucoup. Puis tu n'étais peut-être pas rendue à en parler, puis je pense que c'est juste de conscientiser les gens à faire attention, des fois, sur les commentaires, puis tu sais, au pire. je ne sais pas, tu sais, y a-tu une question qui se pose? C'est ma question que je te pose à toi. Y a-tu une question qui se pose dans un couple, mettons, qu'on sait qu'il essaye, ça ne fonctionne pas? Y a-tu des choses?
Moi, je dirais, pour l'avoir vécu, non. Le couple, si il finit, ça finit par marcher, je pense qu'ils vont en parler.
Ouais.
Parce que c'était justement pour ça qu'on n'en parlait pas de, de nos processus, c'est qu'on ne voulait pas se faire demander « puis ça a-tu marché? » Puis ils en étaient tout. Exactement. C'est pas parce qu'on avait honte de ne pas réussir, si je peux dire, parce qu'on ne contrôle pas, là, c'est biologique. Là. C'est vraiment plus le côté qu'on n'avait pas envie de se faire questionner là-dessus. À savoir, c'est-tu elle le problème? C'est-tu toi le problème? Vous êtes rendu où? Là, vous êtes-vous fait inséminer? Là, comment ça marche l'insémination? On n'a pas, tu sais, sérieux. Déjà qu'on parle à magie, tu sais, moi, dans ma tête, c'était genre.
T'as pas l'énergie à ça.
Non, puis, tu sais, ça se passe tellement pas comme ça. Les enfants naissent du fruit de l'amour et paf, il y a des enfants, tu sais. Ouais. Fait que c'est, ça se fait pas avec des aiguilles, des éprouvettes, des docteurs, tu sais. Non, il y avait pas un third person, là, moi, dans mon idée de couple, là, tu comprends? Ouais. Donc, ça a été vraiment un long processus. Puis, on en a fait des inséminations qui ont pas fonctionné. On était à nos derniers essais, en fait.
Est-ce que tu as pris des hormones?
Oui, on a tout fait ça. Puis, mon Dieu, que je souhaite ça à aucune femme parce que c'est très difficile hormonalement. Ma peau ne comprenait rien de ce que je faisais.
Ça fait quoi, dans le fond,
un peu dans ton corps? On vient booster des estrogènes. On vient... on dirait que mon cerveau a vraiment voulu effacer ça. Fait que je pourrais plus te revenir en détail là-dessus.
Pas là-dedans, mais
Non, c'est correct. C'est que je réalise à quel point qu'une fois que c'était fait, j'étais comme, OK, je veux plus y penser. Mais en fait, c'est ça, c'est des hormones. Ils vont vouloir mettre en contact le plus d'ovules possible avec des spermatozoïdes. Donc, ils vont... on s'injecte en tant que femme nous-mêmes des hormones. Puis c'est très, très fort. Donc, il peut avoir... J'ai pas vécu ça, là, mais il y a des femmes qui vont avoir plus de pilosité. Durant cette période-là, il y a des femmes qui vont avoir des sautes d'humeur. Il y a des femmes qui... Puis j'ai été chanceuse, j'ai ni vécu un ou l'autre, mais émotionnellement, j'étais beaucoup plus affectée, puis je le vivais toute par en dedans. Fait que c'était pas, c'était pas une belle période, mais ça a quand même valu la peine parce qu'on le sait pas trop, en fait. On était à notre dernière chance d'insémination. On procède à tout ce processus-là. Puis ensuite, on est parti en voyage, justement, en Grèce, tout payé par Mary Kay. C'était un des voyages que je m'étais mérité, avec Jamie Félix. Puis, la Grèce, c'est beau, hein? Fait qu'on a eu du fun en Grèce. Puis, coudonc, après, je suis revenue, puis j'étais enceinte. Puis, veux-tu savoir comment j'ai su que j'avais des jumeaux?
Comment?
C'est vraiment drôle, parce que là, écoute, on capotait. Je sautais partout. On était comme, mais c'est-tu l'insémination? C'est-tu parce que avec les dates, c'était
pas si clair,
exactement. C'est comme si il y aurait eu 3-4 jours que ça marche pas si c'était l'insémination. Fait qu'on s'est dit, ça doit être en voyage. En tout cas, bref. Fait qu'on le sait pas, c'est le miracle de la vie.
Oh my God.
Ça peut être les hormones, ça peut être l'insémination, ça peut être parce que c'est tout un peu au même moment. Mais dans le fond, c'est que là, je savais que j'étais enceinte. J'avais peut-être 6 semaines de fait.
Okay.
Puis mon chum, il a vraiment pas fait exprès, puis ça m'est déjà arrivé à moi aussi, mais il a échappé les chevaux. Dans notre village, les chevaux couraient partout. Fait que là, enceinte de 6 semaines, mon chum me dit « Sarah, j'ai échappé les chevaux! Oh my God, je pars à la course en pyjama, en bas de cow-boy, dans Sainte-Gertrude. »
Oh mon Dieu!
Et oui, et je salue tous les gens qui nous ont vus passer en courant à Sainte-Gertrude. Sachez que j'étais enceinte de 6 semaines à ce moment-là.
Oh non!
Et dans le fond, on a fini par les rattraper après 35 minutes de course. Mais il faut savoir que moi, dans la vie, je monte à cheval, mais je m'entraîne pas puis je course pas. Fait que je suis pas super
enceinte, on a un manque de souffle aussi.
Oui, en plus,
aussi, hein?
T'as tout compris, je voyais des points noirs partout. Ah non, je filais pas. Fait que bref, on a rattrapé les chevaux. Il y a des amis qui sont venus nous aider. Il y a aussi des gens de l'extérieur qui ont été nos sauveurs. On rattrape les chevaux, on les ramène à la maison. Puis malheureusement, le soir, je perdais du sang. Fait que j'étais sûre que je l'avais perdu, le petit bébé. Qu'on avait eu tellement de misère à réussir à avoir. Fait que là, on se sentait bien poche. Puis on se disait, hey, on est-tu, hein? T'sais, on a déjà de la misère à l'avoir, puis en plus, on le perd, il y a juste 6 semaines.
Un événement comme ça,
parce
ouais.
qu'on échappe les chevaux, on se sentait bien niaiseux. Mais finalement, j'ai une infirmière extraordinaire, Annick, à la PMA à Trois-Rivières. Je veux vraiment lui faire un shout-out. Là. Je l'ai appelée en pleurs, puis j'ai dit, Annick, je pense que je perds mon bébé. Tu peux-tu me rentrer en 2 rendez-vous? Je veux juste savoir si tu as un cœur. Elle est extraordinaire, elle m'a rentrée en 2 rendez-vous. Puis, justement, la technologue a fait l'écho. Puis moi, étant diplômée en technique équine, ben j'ai vu beaucoup d'échographies.
Oh mon Dieu, avec les chevaux.
Oui. Puis je veux pas un fœtus, c'est un fœtus, c'est une crevette dans un ballon. Là,
oui.
Puis là, je voyais sur l'écran, il passe ça.
Puis là, t'as vu deux sacs?
J'ai vu deux sacs puis deux crevettes. Là, j'ai dit, coudonc, non, ça doit être carpasse. Puis là, j'ai regardé la technologie, j'ai dit, c'est-tu moi ou il y en a deux? Là, c'était pas la médecin exactement. Wow. Fait qu'elle m'a répondu, ben, je peux rien dire, mais ça se pourrait. Fait que finalement, c'est comme ça qu'on a su qu'il y en avait deux. On a été doublement bénis.
Puis le nom de ta fille, est-ce que ça a le rapport avec la graisse?
Même pas. C'est parce que, mon Dieu, c'est une autre histoire.
Là, je t'ai pas.
Non, c'est que je m'étais fait dire que j'attendais deux petits garçons. Mais tu sais, quand on dit qu'une femme ressent les choses, je disais, j'ai une fille dans mon ventre, je suis sûre. Puis là, personne ne me croyait. J'ai même une infirmière qui m'a dit, si vous n'êtes pas satisfaite, Madame Fortin, là, peut-être, tu sais, aller comme consulter, des choses comme ça. Pas satisfaite d'avoir deux petits garçons, selon le test sanguin.
Comme si t'étais trop déçue,
oui, mettons. Puis que j'acceptais pas. Puis j'étais là, non. Je comprends que j'ai sûrement l'air d'une folle, là, mais je vous le dis, j'ai une fille, je suis sûre qu'il y a une fille.
C'est l'intuition de mère.
Oui, ouais. Mais là, il faut savoir que, tu sais, moi, je travaille dans le domaine de la beauté puis dans un monde de femmes. Fait que là, c'est sûr que tout le monde se disait sûrement, oui, c'est ça, mais juste avoir une fille. Et je le savais, puis à mon échographie de 16 semaines, ma docteure était habillée toute en rose. J'ai regardé mon chum, j'ai dit, je te garantis qu'elle nous dit qu'il y a une fille. Effectivement.
C'était ça.
J'avais mon Amazing Grace. C'est pour ça qu'on l'appelait Grace.
Oh, wow! Ouais. Wow!
Puis James, c'est juste parce que c'est un petit intrépide. Tout le long de la grossesse, là, il faisait toutes sortes de petites affaires. Fait qu'on l'a appelé James.
Dans l'écho, c'est lui que tu voyais bouger, tu sais.
Oui, puis c'est ça. Lui, c'était vraiment un... Wow. Il y a eu des moments où il nous a fait un petit peu peur, là, parce qu'il y avait des petits retards de croissance. Mais c'est ça, une grossesse gémellaire. Ça, c'est des hauts, des bas. Le système de santé, il est un petit peu désuet au niveau des jumeaux. Les courbes sont faites pour des bébés singleton, tout seuls. Fait que tout ce qui est avec des jumeaux, des bébés plus petits, des bébés, ben, coudons, ils ont l'air tout en retard dans tout. Fait que ça, j'espère qu'ils vont changer ça un jour, parce qu'en tant que parent, on a eu beaucoup de peur à cause de ça.
Êtes-vous restée en néonatalité, dans le fond, quand ils sont
venus? Quand ils sont venus au monde à Sainte-Justine, c'était tellement beau. James a été en néonatalité 3 jours parce qu'il y avait un petit poids, mais il y avait juste une livre de différence avec sa sœur.
Oh, mon Dieu.
Fait qu'il nous a rejoints là, après, là, puis on a quitté l'hôpital après une semaine.
Ouais.
Il était en pleine santé. Vraiment, on n'avait rien à dire. Deux petits bâtards.
Oh, wow! Hey, dernière petite question,
ben
le moment d'impact, justement pour un peu faire la boucle sur tout ton beau parcours inspirant. Puis encore une fois, merci de t'être livré à nous concernant l'infertilité, tout ton processus. Puis je pense que c'est important pour d'autres femmes d'en entendre plus
sont
parler.
Pas seules.
Ils sont pas toutes seules. Et c'est normal la frustration. Puis d'entendre parler aussi, qu'est-ce que ça fait une hormone dans ton corps. Puis c'est pas un processus qui est facile. Je pense que de normaliser ça aujourd'hui, c'est ce que je souhaitais en fait faire grâce à toi. Fait que merci.
Ça fait plaisir. Merci à toi. C'est un cadeau de partager ça.
Mais vraiment. Puis dans le fond, j'ai envie de te demander, avant le moment d'impact, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Sariane? T'avais quel âge quand t'étais tombée un petit peu dans une passe plus difficile?
Tu veux dire, à 19 ans, quand il est arrivé, c'est arrivé à mon père, ce que j'aurais dit à cette Sariane-là, oh là là,
puis quand t'étais aussi en difficulté, quand t'étais en difficulté financière. Que tu voyais plus le bout de la lumière, qu'est-ce que t'as envie de lui dire aujourd'hui, si t'avais un petit moment avec elle?
Je pense que j'aurais envie d'y prendre les mains, première chose, puis juste d'y dire à ma jeune moi, je peux pas te promettre que tu traverseras pas d'épreuves. Je peux pas te promettre que la vie va toujours être facile puis que ça va toujours aller selon ce que toi tu veux. Mais je peux te promettre une chose, c'est que si tu persévères, ça va toujours valoir la peine. Là, en ce moment, tu as peut-être besoin d'aide, mais un jour, c'est toi qui vas aider des femmes, puis tu vas te sentir vraiment puissante à faire ça. Fait que, lâche pas. Ouais, j'aurais envie de me dire ça.
C'est beau!
Je pense.
C'est vraiment
Merci. Ouais. C'est c'est quelque chose qu'on aimerait tellement pouvoir se faire, s'écrire une lettre ouais. à notre ancien nous, puis pouvoir nous le poster, puis le recevoir ouais. dans le passé.
C'est vrai qu'on devrait le faire, ça.
Ben ouais, s'écrire une lettre à nous-mêmes ou écrire à notre futur nous, puis le relire quand ouais. qu'on vieillit. Mais c'est un privilège pour moi de prendre soin des femmes. On a aussi la plateforme Matin Soir qu'on a lancée. C'est un nouveau mouvement beauté de regroupement d'esthéticiennes, de regroupement de conseillères beauté, Mary Kay, mais aussi des techniciennes en pose, donc des coiffeuses et vraiment tout ce qui est attrait au domaine de la beauté. Puis dans, dans ce mouvement beauté-là, on encourage en fait la femme qui est habituée à prendre soin d'elle à continuer cette bonne habitude-là et même ouais. à l'améliorer. Puis à l'inverse, à la maman occupée qui n'est pas du tout habituée de se déposer à le faire.
De le faire, prendre
exactement. C'est vraiment notre grande mission. Puis on veut se référer entre nous, entre salons d'esthétique, entre professionnels, entre conseillères beauté, entre directrices marquées aussi, parce que souvent, on se compétitionne.
Ouais.
Mais la femme est tellement plus puissante lorsqu'elle se réfère et qu'on s'unit
ouais.
que lorsqu'on essaie de se compétitionner.
Tellement.
Puis quand tu comprends ça, ben mon Dieu, t'as plus de limites, là. T'as plus de limites. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis de l'avant avec cette plateforme qu'on a lancée là en janvier. Oui. Puis on est tellement heureux. On a plus d'une centaine de vues de notre site web par jour depuis. Wow. Donc, on
par
est
jour.
Par jour.
Wow.
Par clic. C'est sûr que ça
wow.
va avec les clics.
Wow.
Mais selon nos dossiers. Donc, on est vraiment extrêmement choyés de oh. pouvoir donner à ce mouvement-là la visibilité qu'il mérite. Parce que pour moi, prendre soin des femmes, c'est devenu une passion. Puis, tu sais, je pense que aussi, c'est pour ça que j'adore venir à des podcasts ou des émissions oui. ou des partages comme ça, parce que j'aime écouter aussi les autres femmes ou hommes qui sont passionnés puis qui ont envie d'aider peut-être des autres avec des situations comme atypiques peut-être ouais. pour ouais. S'en sortir. Là.
Mais j'espère que tu es fière de toi, de tout ton parcours puis de tout ce que tu accomplis puis tu continues d'accomplir puis que tu encourages les autres à faire aussi là-dedans.
Je suis fière. Je suis fière des gens avec qui je travaille beaucoup aussi parce que ça se fait vraiment pas tout seul. C'est impossible à faire seul, en ouais. fait. Là,
je trouve ça beau que tu dises « on » aussi. Depuis ouais. tantôt, je t'entends parler. Là.
Ah ouais. C'est
un teamwork. Pas « je », mais c'est « on ».
Oh ouais, c'est un teamwork. Ouais. L'idée est née dans mon cerveau qui spinne toujours un peu trop, mais heureusement, j'ai une équipe au complet qui m'a permis de matérialiser ça. Je pense entre autres à mon adjointe Véronique Godin qui est exceptionnelle, qui est aussi esthéticienne à la Maison-Blanche. Elle m'a aidée à concrétiser énormément de projets. Elle m'écoute à 11h le soir quand que j'ai une nouvelle idée et qu'elle se dit « oh non, ça serait une nouvelle idée. » OK.
Qu'est-ce que je vais faire comme
exactement.
Travail?
Exactement. Donc, puis toutes nos conseillères beauté, toutes nos belles directrices, puis nos clientes qui nous suivent aussi, c'est tellement important parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'instabilité de l'économie, ça nous prend vraiment tous nos gens, en fait, ouais. qui encouragent les entrepreneurs ouais. d'ici, ouais. des familles d'ici.
Ouais.
C'est super important, là.
Oui, bien merci pour tout ça.
Bien, ça fait plaisir.
Écoute, on est rendu un petit moment d'impact.
Mais oui, tu parles d'impact depuis tantôt, je
ouais.
suis je vais ça avoir volé. Qu'est-ce que c'est ça?
Pas ce genre d'impact-là. Dans le fond, c'est un outil que je partage à tout le monde dans chacune des épisodes.
OK.
Fait que ça touche à des morales, à la différence, à la sensibilisation sur un sujet. Fait qu'on peut l'utiliser, en fait, avec n'importe quelle clientèle de tout âge. Fait que je te le partage. Une, puis c'est inspiré de la psychoéducatrice ou la psychologue, je ne m'en souviens plus exactement. Elle s'appelle Dani Beaulieu, puis c'est sur Academy Impact.
OK.
Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, on est rendu au moment.
OK.
Je te demande de me dire, pour les auditeurs aussi qui nous entendent juste dans le fond audio, qu'est-ce que tu vois sur l'image présentement?
Je vois une marguerite qui sort d'une crevasse.
Oui. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ici, dans le fond?
Tu dis ce côté-là de la
ouais.
photo?
Oui. Entre la crevasse, c'est quoi?
Un petit peu d'eau?
Non.
OK.
En fait, c'est une marguerite qui pousse dans de la roche.
Oh mon Dieu.
Okay. Ouais. Qui l'aurait cru?
Mm-hmm.
En fait, la morale de cette photo-là, ce que je veux emmener à dire, c'est que ça demande que l'on peut accomplir de grandes choses, peu importe ce qui se trouve sur notre chemin. C'est pas d'où on vient, nos diagnostics, nos épreuves de vie qui ont de l'importance, mais plutôt comment on décide de continuer de fleurir malgré les conditions difficiles. Un parcours dans la différence, ça signifie de la résilience et de la croissance. Donc, je trouve que ça me fait beaucoup penser à toi, puis c'est pour ça que j'ai pensé à la marguerite quand
wow,
j'ai vu cette technique-là.
Wow, merci.
Je voulais la partager dans notre podcast.
C'est la fleur préférée de ma grand-mère.
Mais non!
Donc, ouais, j'apprécie vraiment, Julien. Merci
oh. beaucoup.
C'est magnifique.
Et voilà. Alors, pour compléter notre petit épisode ensemble, j'ai une petite question que je nomme que je demande en fait à toutes les invités qui viennent ici. Mm-hmm. Pour conclure, si tu aurais à associer un seul mot au terme différence, lequel ce serait et pourquoi?
Un seul mot. Je dirais, ben je vais être tannante, ça va peut-être être deux, trois mots, là, mais je dirais...
Il va falloir que tu les écris.
Okay. Différence, mais pour qui? Parce qu'en fait, on va souvent donner des... pointer du doigt en disant, tu sais, c'est atypique, c'est pas la norme, c'est une différence, mais moi, j'ai appris une chose à travers travailler avec le public. On sait jamais les histoires des gens et tout le monde... a quelque chose qui le rend différent ou unique, que ça soit une petite expérience qui a été traumatisante, que ça soit une petite déformation, que ça soit un vécu complètement hors norme.
Un mode de vie
Un mode de vie atypique aussi. Fait que moi, je crois que tout le monde est différent, puis on aime ça catégoriser, ça nous sécurise, mais en réalité, je pense qu'il faut l'accepter que tout le monde est différent, puis c'est ça qui fait la beauté de notre univers, puis si tout le monde acceptait les différences des autres, on aurait peut-être un petit peu moins de guerre dans le monde.
C'est beau ce que tu dis, puis je t'invite dans le fond, là on va terminer notre émission ensemble, puis après ça, je vais te demander d'écrire ton nom, de choisir la couleur de ton choix.
Wow.
D'écrire le mot, les trois mots, en fait, sur le petit ruban, puis moi, je vais le garder avec moi.
Wow.
Tu vas le marquer à Andy Caché Podcast. Fait que merci encore de ton ouverture.
Merci beaucoup.
De t'être livrée à tout le monde, puis j'apprécie vraiment ta personne, qui t'es, les leçons que tu apportes à tous, puis merci à tous nos auditeurs aussi qui nous ont écoutés aujourd'hui. Puis on se revoit dans un autre épisode.
Oui, au plaisir. Yes. Merci, Julien.
Merci.
Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.